Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Du grain à moudre d'été ce soir, la mémoire peut-elle être un talisman ? Chaque mois, chaque semaine presque, disparaissent d'anciens déportés, des femmes et des hommes qui ont survécu aux camps d'extermination et de concentration nazis. Casimir Albin, la semaine dernière, 96 ans, il faisait partie des premiers Polonais déportés à Auschwitz. Eva Moseskor, victime des expériences du docteur Mengele, elle s'est éteinte au début du mois. Marceline Loridan-Ivens, là c'était en septembre dernier, des rescapés qui ont témoigné, raconté ce qu'ils ont vu et vécu, comme l'a fait Primo Levi, dont on célèbre aujourd'hui même le 100e anniversaire. Avec ces disparitions se pose une question, celle de la transmission de la mémoire. Question posée avec d'autant plus d'acuité qu'au même moment ressurgissent des discours de haine qu'on croyait contenus, des actes de haine aussi de plus en plus nombreux, actes antisémites menés par des groupes fascistes ou néo-nazis de plus en plus visibles. Un constat inquiétant que certains universitaires, journalistes ou dirigeants politiques comparent à la situation des sociétés européennes des années 30. Peut-on apprendre de l'histoire ? Se souvenir sert-il à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes horreurs? Bref, la mémoire peut-elle servir de talisman? Pour en parler, trois invités. Sandrine Lefranc, bonsoir. Vous êtes politiste, chargée de recherche au CNRS, et vous avez écrit, co-écrit avec Sarah Gainsburger, « À quoi servent les politiques de mémoire ?», livre publié par les presses de Sciences Po. Yoann Michel, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes philosophe et politiste, professeur à l'université de Poitiers et chercheur à l'EHESS. Vous êtes l'auteur d'un « Que sais-je ?» sur le devoir de mémoire. Et puis avec nous, en ligne, Marianne Matar-Bonucci. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire à Paris 8 et présidente de l'association Alarmée, association qui lutte contre l'antisémitisme et les racismes par l'enseignement et la recherche.
On ne peut pas réaliser, puisque nous-mêmes, on a du mal à le réaliser. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas vécu ça puisse le réaliser? On ne peut pas se mettre à la place et on peut imaginer et avec du mal. Et si on imagine, ça sera encore en dessous de la vérité.
On a vécu toute une série de chocs tellement violents, le rasage du pubis que personne ne dit pudiquement, le tatouage du numéro sur le bras, la violence, les cris, les chiens. Ah oui, c'était effrayant.
Je me dis, tout en parlant, comment qu'on a pu en revenir? Mais il y en a tellement qui n'en sont pas revenus. Alors, on est très, très peu. Mais justement, c'est très, très peu. Quand je raconte, je me dis, mais comment qu'on a pu faire ce qu'on a fait? Comment qu'on a pu supporter ce qu'on a supporté? Mais je crains que les personnes qui nous entendent ils racontent des blagues.
Je pense que nous ne sommes que des messagers de la souffrance, de la violence, de l'humiliation la plus terrible. Mais eux, ils ont cette expérience, les morts de la chambre à gaz, qui a dû être quelque chose d'épouvantable.
On peut toujours espérer. Je ne suis pas tellement optimiste là-dessus, moi. Mais on me répète toujours la petite graine. Et justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était déjà adulte et qui me dit « Mais je suis votre petite graine ». Ça fait plaisir.
Les voix entremêlées de Marceline Loridan-Ivens, décédée il y a près d'un an, et de Ginette Kolinka, 94 ans, pour commencer cette émission. Deux femmes, toutes deux déportées à Birkenau, puis Bergen-Belsen et Theresienstadt. Toutes deux ont raconté ce qu'elles ont vécu dans ces camps. Elles sont allées en parler dans des écoles. On va parler d'ailleurs d'enseignement au cours de l'émission. Elles ont écrit des livres aussi. Ma vie Balagan pour Marceline Loridan-Ivens, par exemple. Retour à Birkenau pour Ginette Kolinka, un livre sorti cette année, écrit avec Marion Ruggieri. Livre qui se termine par cette phrase. J'espère que vous croyez que je n'exagère pas. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase, Sandrine Lefranc, de notre sujet, de la mémoire? Elle est assez glaçante et terrifiante aussi.
Oui, d'une certaine manière, ces témoignages sont un drôle de début, puisque au fond, notre premier réflexe, c'est de nous taire après ça. Et donc, on a besoin là de parler de transmission, alors que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se taire et d'entendre dans ces témoignages qui est tellement singulier, tellement hors de notre portée, qu'au fond, ça n'est pas transmissible. Drôle de paradoxe, pour commencer.
Johann Michel.
Oui, il y a quelque chose qui n'est pas transmissible, peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparable, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé pour ces femmes et pour d'autres. Mais aussi peut-être qu'après la mémoire, il y a l'histoire. L'histoire, effectivement, qui n'est pas nécessairement corrélée à une mémoire vive, mais qui peut prendre aussi de la distance par rapport aux mémoires, ou leur donner une autre orientation. Donc je pense qu'ici, on peut essayer de penser une autre articulation entre mémoire et histoire.
On va y travailler, on va en discuter tout au long de ce grain à moudre d'été. Marianne Matar-Bonucci.
Oui, bah écoutez, ce sont des propos qu'on a souvent entendus chez les témoins. J'ai un écho terrible tout en vous parlant. Et en effet, je crois que les historiens sont là pour prendre le relais des témoins. En même temps, ces témoignages mettent l'accent sur quelque chose qui est très réel, qui était la difficulté de ces personnes à rendre compte, à restituer ce qu'avait été leur souffrance.
Ce que dit Ginette Colinca dans son livre, ce qu'elle introduit comme notion, c'est celle du doute. Est-ce qu'on peut douter d'un témoignage de personnes et d'anciens déportés, puisque on ne va pas parler que de la Seconde Guerre mondiale et que de la Shoah au cours de cette émission, mais c'est notre point de départ, notre point d'entrée dans le sujet. Mais il y a le doute, là. Est-ce qu'on peut douter d'un témoignage, Sandrine Lefranc ?
Bien sûr qu'on peut douter d'un témoignage, puisque c'est un témoignage, donc une parole singulière, et qu'au fond, tout le travail reste à faire, c'est-à-dire le travail qui consiste à compiler assez de témoignages pour qu'ils deviennent vraisemblables et deviennent une vérité partagée.
Et des témoignages qui peuvent aussi s'appuyer sur des travaux historiques, scientifiques, là, très factuels.
C'est une absolue nécessité, si vous voulez transmettre quoi que ce soit, le témoignage en lui-même suscite le doute. Et c'est tant mieux, ça veut dire aussi qu'on a une capacité critique qui fera que la vérité sera acceptable.
Johann Michel.
Oui, et on peut aussi recouper les témoignages entre eux, ce qui va donner plus de valeur à la réalité de tel ou tel événement historique. Et l'historien, si on se place ici du point de vue du travail de l'historien, doit aussi s'appuyer sur d'autres sources, autres que le témoignage. Les témoignages sont vifs, relèvent de la mémoire vive, mais l'historien travaille aussi avec des matériaux, je dirais, inertes, mais qui servent aussi pour construire un récit le plus vrai possible.
Je vais juste mettre une petite graine, mais de contrariété cette fois, et dire que même parfois les témoignages ont l'effet inverse de celui attendu. J'ai, moi, en tête, j'ai travaillé sur des politiques, des institutions, de vastes institutions, des commissions de vérité, qui compilaient publiquement beaucoup de témoignages. Mais ces témoignages-là étaient toujours centrés justement sur la souffrance singulière, et donc n'étaient pas là pour produire une vérité partagée par tous sur ce qui s'était produit. Ça ne s'appelait plus violence, mais ça s'appelait deuil difficile à faire. Et donc, par le témoignage, vous pouvez aussi apaiser, adoucir, séréniser, bref, faire taire.
Marianne Matar-Bonucci.
Oui, je ne peux qu'aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a un principe en histoire qui s'appelle le croiser les sources, et la critique est aussi une exigence absolue. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne traite pas les témoignages comment dirais-je, de la même façon que d'autres types de sources, indéniablement. Alors, l'autre question qui se pose à propos de ces témoignages, c'est que souvent, ce sont des témoignages qui ont été délivrés a posteriori, quelquefois par des personnes âgées. Donc, comme tous les témoignages, il y a des inexactitudes, des reconstitutions a posteriori, etc. Et c'est vrai que lorsque les témoins étaient encore vivants, et heureusement, il y en a encore quelques-uns qui témoignent, il pouvait y avoir de la part des historiens une certaine réserve à les critiquer. D'une part, parce que les personnes ne l'acceptaient pas toujours, et d'autre part, parce que les négationnistes se sont employés systématiquement à aller traquer toutes les petites approximations ou inexactitudes qu'il pouvait y avoir pour précisément semer le doute. Alors, il peut y avoir des doutes sur tel ou tel fait, mais les doutes sur un témoignage singulier ne remettent pas en question, évidemment, l'existence de l'événement majeur qui permettent de documenter. Mmh. Mais je crois juste pour un mot de conclusion sur ce point-là, c'est qu'il n'y a pas à sacraliser ces témoignages, pas plus que d'autres types de témoignages. En revanche, c'est vrai que lorsque les survivants des camps de la Shoah ou d'ailleurs d'autres types de témoins vont discuter avec les enfants dans les classes ou avec les lycéens, ça peut avoir un effet contre-productif, mais c'est aussi tout à fait irremplaçable. Hein. C'est aussi irremplaçable parce qu'il y a un échange et dans la plupart des cas, quand c'est bien fait et préparé par les enseignants, ça peut effectivement être un moment important d'échange, voilà, et donc d'apprentissage, de connaissances.
Alors on va venir à ce dialogue, à cet échange et aux conséquences parfois contre-productives de ces témoignages et la manière dont ils sont présentés, mais avec toute leur force et toute leur fragilité qu'on vient d'évoquer, est-ce que ces témoignages, qu'il s'agisse d'anciens déportés, mais ça peut être aussi d'autres victimes hein, de guerre, de crimes de masse, est-ce que ces témoignages sont un remède contre la résurgence des phénomènes qui, comme l'antisémitisme ou les mouvements néo-nazis? Sandrine Lefranc.
Ce ne sont pas des remèdes à soi tout seul et pour cause. Le témoignage, il a besoin, on l'a dit et répété, tout cela, d'être adossé à une vérité. Mm-hmm. Et ma collègue vient de dire que ça pouvait on pouvait en douter systématiquement d'un témoignage.
Au-delà du témoignage, on adosse ce témoignage à des faits historiques, scientifiques. Est-ce que ce qui constitue mémoire, et on va parler de la constitution de la mémoire, mais ce qui fait mémoire peut, je reformule ma question, être un remède?
Est-ce que c'est un talisman, si je reprends la jolie expression que vous avez choisie? Moi, j'en doute. Je doute que la mémoire soit à elle seule un talisman, parce que qu'est-ce qu'on appelle la mémoire, là? C'est un moment dans la vie d'un écolier, avec l'espoir de semer une petite graine, mais la petite graine, elle se sème pour avoir des effets plus tard, 10 ou 20 ans plus tard, c'est-à-dire pour faire en sorte que cet écolier résiste, ne devienne pas antisémite, ne devienne pas raciste, pour que tout cela soit armé. Il ne suffit pas de la petite graine, et il ne suffit même pas de la petite graine adossée à la vérité. Mmh. Il faut d'autres choses. Il faut que cet écolier, dans la classe où il reçoit ce témoignage, ne soit pas accaparé par son collègue qui a envie d'en jouer, de contester l'autorité de l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit d'accord, il faut que la famille soit d'accord, il faut que la vérité soit partagée par le quartier. Et tout ça est fragile. Ça ne marche, la mémoire. Ça ne fait talisman que si j'entends la même chose dans tous les lieux où je vis, dans tous les mondes sociaux qui sont les miens.
Mmh. Johann Michel.
Oui, je voudrais revenir quand même sur le fait qu'une mémoire peut revenir très longtemps après les faits. Mmh. Je pense notamment à la mémoire de l'esclavage.
C'est un sujet que vous connaissez bien.
Oui, c'est un sujet que je connais bien. Et cette mémoire, dans le cas français, le réveil mémoriel intervient à la fin des années 90. Mmh. L'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Donc le réveil mémoriel intervient très longtemps après la disparition des derniers témoins. Donc ici, alors que pour d'autres événements, ça va être pratiquement juste après, comme après les attentats qui ont endeuillé la France. Bon. Donc ici, il y a eu un réveil mémoriel alors même que les témoins ont disparu depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des contextes particuliers, il y a eu des associations, il y a eu des prises de conscience qui ont fait qu'à un moment donné, cette mémoire devient un problème.
Mmh. Marianne Matar-Bonucci.
Oui, talisman, on pourrait même dire une forme de médecine préventive hein, qui préviendrait le retour d'atrocité. Bon, on a quand même beaucoup parlé du devoir de mémoire avec une action morale à partir des années 1990. Or, comme l'a dit Sandrine Lefranc, bon, il n'y a pas d'abord de travaux qui prouvent véritablement le rôle bénéfique de cette politique de mémoire qui a été mise en œuvre, c'est certain. D'autre part, elle a pu engendrer, c'était bon, encore une fois, que les choses soient bien claires, je pense qu'il est tout à fait essentiel d'enseigner l'histoire de tous ces événements dramatiques qu'ont été l'esclavage, la Shoah, etc. Mais est-ce que enseigner donc l'histoire des génocides et des drames de l'humanité va prévenir le retour donc de différentes formes d'hostilité, finalement on voit pas véritablement pourquoi. Donc il faut encore une fois fabriquer, je crois, davantage du savoir, fabriquer de la réflexion, de l'analyse, montrer précisément dans quelle logique s'inscrivent ces processus, mais les appréhender par la mémoire, avec cette idée un peu magique, au fond, une fois qu'on aurait touché, peut-être par le témoignage, à ce qu'a été l'horreur, eh bien, on deviendrait nécessairement un bon citoyen, et sans doute, et a été une approche un peu naïve.
La mémoire peut-elle être un talisman? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir sur France Culture. Nous en parlons avec Sandrine Lefranc, politiste, Yoann Michel, philosophe, et Marianne Matar-Bonucci, que vous venez d'entendre, historienne. Marianne Matar-Bonucci, qui vient de parler du devoir de mémoire, c'est une expression qu'on entend souvent et à laquelle on pense rapidement quand on parle de mémoire historique pour des événements tels qu'un génocide ou une guerre. Je voudrais vous faire écouter, pour nourrir notre réflexion, ce qu'en disait l'un des résistants les plus connus, Raymond Aubrac.
Je trouve que quand on a traversé des paysages ou des événements un peu étonnants, on n'en est pas propriétaire. Par conséquent, si ça intéresse quelqu'un, il faut le transmettre. J'ai réellement ce sentiment profond quand je vais dans une classe avec des gosses qui me posent des questions, que c'est mon devoir de leur répondre. C'est en même temps mon plaisir, naturellement. Mais je le ressens comme un devoir. Ce qui m'est arrivé ne m'appartient pas. Ça appartient à une espèce de mémoire collective, et si ça les intéresse, ils me posent des questions, je réponds, voilà.
Ce qui m'est arrivé ne m'appartient pas, disait Raymond Aubrac, interrogé sur France Inter par François Bunel. C'est quoi le devoir de mémoire? Je vous voyais froncer les sourcils, Sandrine Lefranc, à la prononciation, à l'énonciation de cette expression.
Je crois qu'à ce stade de l'émission, on peut être tous d'accord que le savoir dès lors qu'il devient une posture de révérence morale, y compris de bienveillance permanente à l'égard des victimes, est une erreur. Même Raymond Aubrac le dit, c'est une bonne chose. Là, je peux introduire un troisième terme qui est celui de pouvoir. La mémoire, le talisman, c'est de la protection, mais c'est aussi du pouvoir, c'est-à-dire que c'est un signe de pouvoir. Et le devoir de mémoire, avec d'autres expressions, c'est aussi une politique partisane. Et ça explique les effets pervers en partie. C'est quoi comme politique partisane? Eh bien, je sais, par exemple, en France, un parti socialiste qui tente de tenir le Front National le plus éloigné possible du centre du pouvoir. Ce sont des députés marginalisés qui s'emparent de cette expression. Bref, c'est de la bonne politique. Mmh. Et la bonne politique, ça n'est jamais propre. Et donc, on a là une contradiction absolue. Le devoir de mémoire, lorsque c'est une posture morale qui est par ailleurs instrumentalisée par des politiques, je ne suis pas sûre que ça vaille grand-chose. Et ça nous fait oublier ce qu'on est tous d'accord pour mettre au cœur de notre problème, c'est la pensée critique, le doute.
C'est un outil politique, le devoir de mémoire, Yoann Michel?
Je ne sais pas, je suis assez d'accord avec ce que dit Sandrine. Effectivement, je pense que le devoir de mémoire peut avoir une justification par rapport à un certain nombre de crimes qui ont été passés sous silence, oubliés, mais à condition que ce devoir de mémoire soit adossé à la fois avec un devoir d'histoire, au sens du travail critique de l'historien, également adossé à un travail de mémoire, là au sens où l'entend le philosophe Paul Ricoeur, travail de mémoire au sens faire revenir le passé, mais sans sa dimension négative, ressentiment, vengeance, douleur. Le travail de mémoire est parent du travail de deuil, au sens de Freud, ici. Et je crois que, à ce double titre, le devoir de mémoire peut avoir une justification.
Marianne Matar-Bonucci.
Oui, là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le témoignage éclaire d'un sens un peu particulier quand même l'expression, puisque là, il s'agit au fond d'un témoin et d'une victime qui voulait transmettre quelque chose. Donc, c'est de son point de vue à lui qu'il se plaçait pour parler de ce devoir de transmettre qui s'inscrivait au fond dans la continuité de ce qu'avait été son engagement résistant. Et ça, je crois que c'est incontestable et que justement ça fait partie de l'histoire, si vous voulez. Bien évidemment, il y a des instrumentalisations politiques de la mémoire et il y a aussi des instrumentalisations politiques de l'oubli. Là, je vous parle depuis l'Italie, où il y a en ce moment une forme de réhabilitation du fascisme qui passe par l'occultation d'une réalité de ce qu'ont été les atrocités commises par les fascistes. Donc une forme, vous voyez, de manipulation de la mémoire. Et donc, garder vive la mémoire de ce qu'a été le fascisme dans sa phase, dans sa phase la plus sombre, peut aussi, effectivement, être un enjeu. Bon, c'est un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu historique. Donc la difficulté, elle est là. Elle est de savoir où passe la frontière entre politique et réalité scientifique.
Pour poursuivre ce que vient de dire Marianne Matar-Bonucci, je voudrais creuser un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Sandrine Lefranc, sur les politiques mémorielles, la manière dont elles sont utilisées par les politiques comme instrument de pouvoir aussi. Est-ce qu'elles ont fonctionné, ces politiques mémorielles ?
Alors, je vais d'abord préciser quelque chose. Ça n'est pas que de la politique instrumentalisée par des grands méchants que sont les hommes politiques. C'est aussi de la politique au sens de conflit, de mobilisation de victimes. Et en ce sens, le conflit est une très bonne chose au service des politiques de mémoire.
À quel exemple pensez-vous ?
Les maires de la place de Mai, pour ne citer que celles qui sont chères à mon cœur, mais on a parlé d'esclavage tout à l'heure, c'est à chaque fois des guerres, du dissensus, des conflits, c'est là que ça a une signification, c'est-à-dire quand ça devient brûlant, et surtout quand on pose des questions pour aujourd'hui, de quelle injustice sociale parle-t-on ? Pas seulement d'histoire, mais de problèmes contemporains, et au fond, ça devient compliqué dès lors qu'on parle d'aujourd'hui. Ça devient intéressant dès lors qu'on parle d'aujourd'hui. Maintenant, savoir si ça marche, si une politique de mémoire marche, oui, on a reculé un temps, l'arrivée du Front National au plus près du pouvoir, oui, dans les dictatures que j'ai connues, on a géré au mieux le passage de témoins vers des démocrates, donc ça...
Vous parliez de l'Argentine. Hein, avec
de l'Argentine ou de l'Afrique du Sud. Les politiques de mémoire, ce sont de vrais outils. Alors, à faire taire les victimes, dans certains cas, ou en tout cas leur faire parler un langage compatible avec la transition, avec le compromis entre les deux morceaux du camp, enfin, entre les deux camps politiques. Donc ça les fait taire, mais ça permet aussi en douceur d'installer une démocratie. Donc ça marche, mais c'est de la politique.
Vous disiez aussi tout à l'heure que ça pouvait être contre-productif. En quoi ça peut être contre-productif ?
Ça peut être contre-productif précisément parce que c'est du conflit. C'est-à-dire quand vous en faites une posture de révérence morale, quand vous offrez une mémoire sanctuarisée, pétrifiée dans le marbre, un truc intouchable, un témoignage qui ne peut susciter que des larmes, vous suscitez des agacements et c'est normal, c'est parfaitement normal. Dès lors que vous en faites du marbre moral, vous effritez la portée critique de cette mémoire. Et on sait ce qu'il en est dans nos classes ou partout ailleurs, dans nos cafés, ou même dans nos universités.
Ça vous arrive, effectivement, Yoann Michel, en cours, de devoir faire face à des étudiants qui portent un regard, différent ou très critique sur ce que vous leur dites de la mémoire de l'esclavage, par exemple ?
Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, ce sont des étudiants qui sont plutôt intéressés par ce genre de choses. Non, j'ai pas eu droit à des remarques désobligeantes ou à des remarques... Par contre, par rapport à ce que disait Sandrine, je pense qu'il est important de distinguer une mémoire officielle, c'est-à-dire finalement la mémoire produite par les acteurs politiques légitimes, entre guillemets, les États, les collectivités locales, etc. Et ce qu'on peut appeler un peu, au sens où tu le disais tout à l'heure, une mémoire publique, c'est-à-dire portée par des associations qui ne sont pas toujours d'accord entre elles, des groupes intermédiaires et qui font aussi les politiques de la mémoire, voire qui cherchent à traduire leurs propres revendications en politique publique de la mémoire, donc en mémoire officielle. Mais c'est important, me semble-t-il, de faire la distinction entre une pure mémoire officielle, si on peut dire, hein, produite par les acteurs politiques, et une mémoire publique.
Sandrine Lefranc.
Je peux juste ajouter que notre problème concernant les étudiants qui sont les nôtres est plutôt l'inverse. Moi, j'ai plutôt affaire à des gens qui viennent là, plein de savoirs pontifiants et plein de convictions morales, et qu'il est plus intéressant d'essayer justement de réinstaurer la pensée critique.
Ouais.
Il aurait fallu inviter peut-être un enseignant du secondaire, ou tout simplement des personnes qui ont affaire à d'autres publics moins sages que les nôtres.
Oui, oui, complètement.
Marianne Matar-Bonucci.
Oui, bah, c'est un fait qu'à l'université, on est encore tellement confronté effectivement à ces difficultés. En revanche, dans le secondaire, dans le cadre de l'association à l'armée, donc nous sommes en contact avec des enseignants du secondaire et ils sont quelquefois confrontés à ce qu'on a pu appeler la concurrence des victimes ou la concurrence des mémoires victimaires, hein, c'est-à-dire monsieur ou madame, pourquoi il y en a que pour les juifs ? Ce genre d'expression a pu en effet être entendu. Et il y avait quand même, il faut le rappeler, alors là j'ai pas vu ce que sont les nouveaux programmes, mais on proposait quand même, dans le cadre du programme de terminale, il y avait justement une première section en histoire sur la mémoire, et on proposait aux enseignants de choisir entre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la guerre d'Algérie, vous voyez. Donc, de ce point de vue-là, on se demande ce que les gens qui avaient conçu le programme avaient en tête. Donc non, on n'est pas tellement confronté encore à l'université à ce type de difficultés. Mais en revanche, c'est un fait que les associations ont tendance effectivement à faire monter ce processus donc de concurrence de manière fâcheuse, souvent. Avec un lien entre mémoire des victimes et le renforcement d'une forme de sentiment communautaire aussi.
La ligne n'est pas très bonne, Marianne Matar-Bonucci. On va peut-être essayer de vous rappeler pour espérer avoir une ligne de meilleure qualité. Sandrine Lefranc.
Sans vouloir gratter là où ça fait mal, j'ai évoqué tout à l'heure les conflits, on l'a fait ensemble, les conflits autour de la mémoire. Et j'ai toujours un peu de difficulté à trouver les critiques fâcheuses. C'est-à-dire que je suis exactement la petite graine de Raymond Braque. Je suis la parfaite élève. Je suis née avec des livres sur la Shoah dans la main. J'en ai fait mon métier, c'est une passion, même si le doute s'accable. M'accable aujourd'hui. Mais au fond, je voudrais qu'on admette que nous avons tort lorsque nous considérons qu'une contrariété, une contradiction est fâcheuse. Et c'est ça qui est très compliqué. Dès qu'on touche à un témoignage qui nous émeut, dès que l'émotion est sur la scène, on oublie qu'on devrait rester grand ouvert à la pensée critique. Et c'est l'une des vraies difficultés des politiques de mémoire aujourd'hui en France.
Yoann Michel.
Oui, j'ajouterais que ce qui fait peut-être la particularité du régime démocratique, entre guillemets, c'est l'existence d'un pluralisme des mémoires, par opposition à des régimes totalitaires qui visent à construire une mémoire et une histoire hégémonique. Donc, mais pour revenir au devoir de mémoire, je crois qu'il y a une double facette à prendre en compte. Je crois que le devoir de mémoire, dans certains de ses abus, peut être un ennemi de l'histoire, c'est-à-dire peut empêcher en quelque sorte le travail de l'historien de se faire. En revanche, dans d'autres contextes, il peut être un allié. Je pense à la mémoire de l'esclavage, où le boom mémoriel à la fin des années 90 a permis aussi de donner plus d'importance dans les programmes scolaires à la traite, à l'esclavage, à donner d'autres impulsions à la recherche. Donc je crois qu'il faut prendre en compte cette double facette en apparence contradictoire, positive et négative, du rapport entre devoir de mémoire et par rapport au travail de l'historien, me semble-t-il.
Est-ce que la mémoire, comme l'a critiqué, l'a dit aussi un romancier israélien, Avraham Yehoshua, est-ce que cette mémoire peut être tyrannique et donc paralysante, Sandrine Lefranc?
Tyrannique et paralysante, pour qui? Pour ceux qui doivent recevoir un contenu figé, sans aucun doute. Et au fond, notre pratique, notre devoir de mémoire, dont nous avons relayé la puissance en tant que pédagogue, elle est paralysante dans sa fonction. Elle a une fonction politique, donc elle paralyse un ennemi politique. Elle est paralysante dès lors qu'elle se veut morale. Oui, c'est écrasant, la mémoire.
Marianne Matar-Bonucci.
Oui, elle peut être paralysante quand il y a injonction de mémoire. Si on pense par exemple aux lois mémorielles qui ont quand même été largement combattues par les historiens, on voit à quoi ça correspondait du point de vue des institutions et de l'État, mais ça a probablement eu aussi un effet contre-productif parce que certaines personnes ont pu estimer justement qu'il n'y avait plus de liberté d'expression, de liberté de pensée. Enfin, en tout cas, ça a été ceux, par exemple, les négationnistes qui pouvaient contester l'existence même du génocide contre les Juifs, ont présenté ces lois mémorielles comme étant une volonté de faire taire ceux qui exprimaient un doute. Donc, c'est de ce point de vue-là effectivement compliqué. En même temps, c'est un fait que certaines mémoires peuvent aussi être porteuses de processus positifs d'un point de vue politique. Je pense par exemple à la mémoire de l'antifascisme sur laquelle l'Italie républicaine s'est construite pendant longtemps, avec la mémoire donc de ce qu'avait été le fascisme. Et l'antifascisme était mis en avant des valeurs qui aujourd'hui sont battues en brèche, des valeurs de solidarité, une certaine forme d'antiracisme, d'humanisme, dans la façon dont l'Italie aujourd'hui n'accueille pas justement et ne veut pas accueillir les migrants. Eh bien, on voit bien que cette mémoire de l'antifascisme est effectivement en pleine, comment dirais-je, et battue en brèche.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Marianne Bonucci, ça prolonge hein, ce que vous disiez, Yoann Michel, il y a quelques minutes, sur l'existence de plusieurs mémoires, hein, de la cohabitation de plusieurs mémoires. Comment elle se construit, une mémoire? Comment ça se construit, une mémoire collective? Vous en parliez, vous l'effleuriez tout à l'heure, Sandrine Lefranc. Ça suppose quoi?
Ça suppose l'action conjuguée de tous les mondes sociaux auxquels j'appartiens. Là, je peux citer Alvac, c'est-à-dire que c'est une mémoire n'est vive que lorsqu'elle est présente.
Sociologue du début du XXe siècle.
Oui, sociologue, voilà. Disciple de Durkheim, sociologue spécialiste de la mémoire collective. Il montre bien comment la mémoire, ça n'est pas de la pure théorie, c'est de l'interaction sociale. Et justement, on a cette problématique des morts et de ce qu'on va perdre avec leur mort. La mémoire collective, c'est de l'interaction sociale continue avec la possibilité que cela se contredise. Et ça se contredit toujours.
Yoann Michel.
Oui, alors ce qui est intéressant en même temps, tu parlais d'Alvax, c'est que lorsque Alvax parle de mémoire collective, il l'entend surtout pour ce qu'il appelle des groupes intermédiaires, c'est-à-dire des groupes relativement restreints, des familles, des églises, des associations. Là où les choses deviennent plus compliquées et plus intéressantes en même temps, c'est lorsqu'on passe à l'échelle nationale, où là, précisément, ce ne sont pas des groupes intermédiaires, ou plutôt c'est un assemblage de groupes intermédiaires, parfois hétérogènes, parfois en contradiction, parfois en conflit. Et c'est là que la question de la construction d'une mémoire collective nationale, entre guillemets, devient ou peut devenir un problème, peut devenir l'objet d'une instrumentalisation, on en parlait tout à l'heure, et se distingue clairement, justement, d'une mémoire officielle. C'est-à-dire que un État, une collectivité peut promouvoir telle ou telle mémoire. Rien ne dit que cette mémoire va être partagée par tel ou tel groupe intermédiaire. Peut-être partagée par tel groupe intermédiaire et pas par tel autre, etc., etc. Donc là se pose ici la question de l'harmonisation, ou pas d'ailleurs, des mémoires entre elles.
France Culture. Du grain à moudre, Antoine Genton.
Du grain à moudre d'été, la mémoire peut-elle être un talisman? C'est la question posée ce soir sur France Culture. Et ce que pose comme question aussi ce sujet, c'est celle de l'éducation, de l'enseignement. On en a déjà un peu parlé depuis le début de cette émission. Je me tourne vers vous, Marianne Matar-Bonucci. Qu'est-ce que pose la question de l'enseignement de l'histoire? Comment enseigner la mémoire? On parlait de mémoire officielle, de mémoire nationale. Comment on l'enseigne, cette mémoire, aujourd'hui? Et peut-être comment faudrait-il finalement mieux l'enseigner?
Alors, moi, je dois dire que je ne me suis pas tellement posé la question en ces termes-là, parce que précisément, j'avais des doutes sur le fait que pour appréhender des phénomènes doivent être combattus, tels que racisme, antisémitisme, hostilité identitaire, discrimination, eh bien, j'avais des doutes sur le fait qu'il fallait partir de la mémoire. Donc, là, les mémoires dont on a parlé sont des mémoires qui sont liées à des génocides, à des phénomènes traumatiques, et au fond, la question qui se pose, qui est dans le prolongement de celle-là, c'est quelle place faut-il donner au génocide et à ces événements donc paroxystiques de l'histoire? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, si l'on considère par exemple la mémoire de la Shoah, eh bien, c'est que les lycéens étudient l'histoire de la Shoah sans rien savoir de ce qui s'est passé avant, de l'histoire des Juifs, de l'histoire de l'antijudaïsme catholique, de l'histoire de l'antisémitisme, et donc ça arrive comme ça, de manière brutale, et ça contribue probablement d'ailleurs à ce phénomène paralysant dont vous parliez tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut bien évidemment étudier l'histoire des génocides, des crimes de masse, mais qu'il faut l'intégrer dans une histoire longue, qu'il faut appréhender l'ensemble de ces phénomènes et ne pas en privilégier un par rapport à l'autre. Et je crois qu'il est important, justement, que l'université s'empare de ces questions et que ces questions ne soient pas seulement, j'ose pas dire abandonnées, parce qu'en général, elles le font bien, mais qu'elles ne soient pas déléguées à des institutions mémorielles ou à des associations, comme c'est le cas en ce moment, c'est ce que fait l'éducation nationale. Et donc, je crois qu'il faudrait intégrer encore une fois, dans les programmes universitaires et donner mission aux universités, eh bien, d'apporter un savoir sur ces questions.
Johann Michel n'est pas tout à fait d'accord. Je vous voyais au chaud de la tête.
Non, oui, j'ai tiqué un petit peu. Que l'éducation nationale aujourd'hui délègue entièrement ou délègue même partiellement à des associations le soin d'enseigner l'histoire. Là, je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir des phénomènes comme cela, mais...
Pardon, délègue la formation des enseignants sur ces questions, pour le moment, est essentiellement menée par le mémorial de la Shoah. J'ai participé, d'ailleurs, à ces formations. Et à des associations telles que la LICRA. Mais je pense que c'est important pour le coup là aussi de séparer les genres et que justement l'université, de par son indépendance et sa tradition critique, devrait pouvoir s'emparer de la transmission donc de ses savoirs relatifs au racisme, à l'antisémitisme, etc.
Johann Michel.
Oui, mais les enseignants du secondaire, par exemple, disposent d'une autonomie quant à eux pour enseigner comme ils l'entendent et avec les méthodes pédagogiques de leur choix, tel ou tel événement, comment il faut l'enseigner, en s'appuyant sur des faits, sur une histoire de longue durée, et le cas échéant, en s'appuyant sur des témoignages. Mais là-dessus, l'éducation nationale laisse libre aux enseignants le choix.
Les enseignants disposent de peu de temps et sont quand même relativement contraints par des programmes. Donc il y a effectivement une certaine souplesse possible dans l'interprétation des programmes, mais pour le moment, dans les programmes, aucune place n'est faite, par exemple, à l'histoire de l'antisémitisme, d'un antisémitisme qui s'inscrirait dans la longue durée, ou tout simplement même à l'histoire des religions et des hostilités entre les grandes religions monothéistes, qui, à mon avis, est une donnée importante de la question s'agissant de l'antisémitisme. Donc ça suppose quand même de repenser aussi les programmes et de repenser la formation des enseignants du secondaire. Pour avoir participé à ces formations, je peux vous dire qu'il y a une demande énorme justement des collègues du secondaire sur ces questions-là.
Repenser les programmes, repenser la formation, Sandrine Lefranc, pour mettre en perspective, enseigner peut-être la généalogie des événements, pour continuer ce que disait Maria Matabulici.
D'accord. Alors moi, je ne peux pas donner de leçons aux enseignants parce que je ne vois pas ce qu'ils pratiquent, mais je crois qu'ils s'en débrouillent pas trop mal et qu'ils assument avec beaucoup de capacité d'évitement le devoir de mémoire qui leur est parfois imposé, mais on pourrait se mettre d'accord. Il faudrait effectivement...
Il faut dire aussi qu'ils sont confrontés parfois à une réalité qui les contraint, qui les oblige à mieux expliquer, à mieux raconter et à sortir du cadre imposé par les
programmes. Avec un peu de chance, ils ont en face d'eux des enfants et des collégiens critiques et c'est tant mieux. Je crois qu'on pourrait tous se mettre d'accord. Une histoire qui soit moins chargée d'émotions, moins sous le coup des témoignages singuliers qu'on reçoit en pleine face, mais qu'on oublie aussi, je le crains. Une histoire plus contextualisée, plus attentive aux structures, une histoire qui arrête de nous raconter des histoires de vilains monstres, parce que dès qu'on regarde un processus génocidaire, on sait que ça n'a pas grand-chose à voir avec les vilains monstres, que ce sont des hommes qui sont pris dans des interactions et qui en viennent à tuer ceux qui, hier, étaient leurs proches, je pense au Rwanda. Donc je crois qu'on serait tous d'accord sur la bonne manière d'enseigner l'histoire, mais au fond, j'ai toujours la petite graine de contrariété après la petite graine d'éducation morale. Je crains que de toute façon, même cette histoire très bien enseignée laisse assez peu de traces quand on fait des enquêtes sociologiques sur du micro-trottoir, si vous voulez. Sur quelle histoire avez-vous en tête? L'histoire, c'est un truc de pédagogue ennuyeux comme nous, un truc qui s'oublie, un truc qui est dans la révérence morale. Donc il va peut-être falloir penser à d'autres choses quand même.
Johann Michel.
Oui, je pense aussi à un autre instrument très important en termes de distance justement par rapport à l'empire des émotions, c'est la comparaison. C'est mettre en place une histoire comparée, y compris par rapport à des événements qui ont quelque chose d'unique, bien évidemment. Certains événements tragiques ont une part d'unicité, mais doivent aussi pouvoir, sur d'autres plans, être comparés. Si on parle de génocide, on doit pouvoir aussi comparer des entreprises génocidaires différentes. Et ça rejoint...
Les comparer dans leur mécanisme, dans la manière dont tout ça s'est mis en place.
Tout à fait, tout à fait. Ceci permet de générer une distance émotionnelle par rapport aux événements.
Pour continuer ce que vous disiez, Sandrine Lefranc, pour parler de l'impact en fait de cet enseignement de l'histoire, est-ce que les médias aussi ont un rôle là-dedans? Si on sort de l'éducation, parce que une fois qu'on a sorti de l'école, effectivement, on en sort avec quelques connaissances, quelques savoirs. Évidemment, pas tout ce qu'on nous a enseigné. Et les médias ont aussi une part de responsabilité dans la construction de la mémoire et dans la construction de l'histoire.
Je crains que oui, et je vous soupçonne d'être plus amateur de témoignages qui troublent et qui émeuvent que d'histoire lourde, structurée et peu idéologique.
C'est pour ça que nous vous invitons.
Il y a du travail à faire globalement, mais il y a encore autre chose. Enfin, au fond, parler d'histoire, parler de ce talisman qu'est la mémoire, sans dire dans quel monde nous vivons, sans en faire la constante critique, sans admettre d'entendre tous les propos critiques, y compris les plus troublants, c'est là que ça commence. C'est la mémoire, oui, mais la mémoire avec de la vérité, beaucoup de vérité, et puis pas mal de justice aussi.
Marianne Matar-Bonucci.
Oui, je suis d'accord avec tout cela, bien sûr. La comparaison, c'est très important, en effet, c'est-à-dire introduire de la pensée, introduire de l'analyse, de la réflexion, et donc désenclaver, effectivement, ces histoires chargées d'émotions, je crois que c'est tout à fait important. Bon, il y a aussi des expériences pédagogiques qui ont été faites, pour le coup, par des enseignants du secondaire et à l'université, et quand on place les lycéens ou les étudiants dans une position qui est une position justement non pas de spectateur, mais d'une certaine façon de chercheur en herbe pour eux-mêmes construire un savoir à partir de témoignages ou d'autres choses, ça peut donner de très bons résultats. Je pense par exemple à l'expérience Convoi 77, à laquelle moi j'ai participé depuis 2 ans.
Qu'est-ce que c'est Convoi 77 ?
Alors, Convoi 77, c'est en fait un projet collectif à l'échelle européenne qui a été lancé par un fils de déporté qui avait été déporté par le Convoi 77, qui est l'avant-dernier à partir de Drancy. Et les jeunes gens qui participent doivent faire des recherches sur les déportés de ce convoi. Et donc, ils vont dans les archives, ils construisent à partir de là une biographie et quelquefois en collaborant avec d'autres lycéens d'Europe ou d'ailleurs, et je dois dire que ça donne de très bons résultats parce qu'ils vont dans les sources, ils apprennent à les critiquer, ils se heurtent aussi à certaines lacunes justement de la documentation. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait intéressant qui va les impressionner, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'ils garderont pour le coup la mémoire d'une expérience qui aura été celle de la connaissance.
Qui aura aussi été celle de l'esprit critique, Sandrine Lefranc.
Bien évidemment.
Faites rechercher, ne transmettez pas la mémoire.
Yoann Michel.
Oui, il faut aussi se demander...
Il nous reste 30 secondes.
30 secondes, pourquoi la mémoire suscite autant d'émotions, autant de problèmes ? Je crois parce qu'il n'y a pas d'identité sans mémoire. John Locke l'avait déjà montré. Et c'est vrai à l'échelle individuelle, personnelle, c'est vrai aussi à l'échelle collective. Toucher à la mémoire, c'est toucher aux identités. Et je crois que c'est pour ça que les questions de mémoire vont constituer encore des enjeux majeurs.
Merci de toutes ces réflexions et de cette discussion riche et féconde. Merci à tous les trois. Sandrine Lefranc, politiste chargée de recherche au CNRS. Yoann Michel, philosophe, politiste, professeur à l'Université de Poitiers. Et Marianne Matar-Bonucci, en ligne d'Italie, professeur d'histoire à Paris 8. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été. Marguerite Caton, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Margot Leridon, Aliette Ovine, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir Alexandre Fougeron et Léa Racine, mise en onde Jean-Guilain Meige. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, l'application Radio France et le site franceculture.fr. Restez avec nous, dans une minute, Matière à penser avec Antoine Garapon cette semaine.